terror states, terrorist networks.
Mais non, mais non, et non, et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, même dans un état terroriste, eh bien, nous ne sommes pas des terroristes. C'est la 73e, puis-je lire, sur l'article préparé par Pascal Rudier, qui eh bien, nous accompagne, comme il vous a accompagné parfois en solo ces derniers mois. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Gilles, ah, quel plaisir de te relaisser le micro rouge.
Et voilà, un micro rouge que je retrouve avec, ma foi, évidemment, un certain plaisir, pour ne pas dire un plaisir certain. C'est Bruno Bertrand qui officie à la technique pour cette émission, dans laquelle, à part mon retour et ma gloire, nous célébrerons, ou nous décélébrerons, ou nous décérébrerons, l'Adopi, toujours l'Adopi, qui fait couler autant d'encre que le pis de la vache fait couler de lait.
Ah, c'est toujours une source d'inspiration et d'articles riches.
Et puis on parlera de la FSF contre Flash, on parlera de plein d'autres choses. Vous l'aurez compris, une émission exclusivement, comment dire, nouvelle du front, mais aussi avec de la musique.
Oui, de la musique avec Pierre Baron. On explorera quelques titres de son dernier album, Le Réveil. C'est pas sous une licence particulière, il faut juste le citer. Et il dit boycottons la SACEM.
Voilà, né à Montpellier, l'année de l'abolition de la peine de mort en France, Pierre Baron peut se targuer d'avoir eu une vie sans douleur ni tourmente. La suite de cette biographie tout au long de cette émission. Tout de suite, les nouvelles du front.
Nouvelles du front.
Pascal.
Alors l'Adopi toujours, est-ce que l'Adopi passera en force pour envoyer ses premiers mails?
Eh bien l'Adopi a confirmé ce lundi 3 mai 2010 lors d'une conférence de presse que l'envoi des premiers mails se fera sans attendre la publication des fonctionnalités pertinentes que devront revêtir les moyens de sécurisation. Vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave, c'est une loi dans laquelle on ne comprend rien. Michel Riguidel, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, doit rendre en septembre un rapport sur les fonctionnalités souhaitées, mais l'envoi des premiers mails pourrait bien se faire en juin.
Et oui, en juin. Par ailleurs, l'Adopi a laissé entendre que l'installation d'un moyen de sécurisation pourrait ne pas être suffisante à prouver sa bonne foi en cas d'infraction répétée et qu'elle demandera aux internautes suspectés d'apporter des éléments complémentaires, ce qui pose une question. Quid, une fois encore, de la présomption d'innocence?
Le décret en Conseil d'État sur la définition de la sanction de négligence caractérisée pourrait par ailleurs être publié d'ici 2 mois, selon les vœux pieux de l'Adopi. Source de l'excellent Guillaume Champeau, que nous citons allègrement tout au long de ces émissions.
Oui, numerama.com. Alors, si tu as rechargé l'article récemment, une news qui est tombée à 17h ou 16h45 sur les prompteurs, eh ben, Adopi, un vice de forme attaqué devant le Conseil d'État. Le fournisseur d'accès associatif FDN, French Data Network, que l'on connaît très bien, a annoncé ce jeudi qu'il saisissait le Conseil d'État en vue de faire annuler le décret publié au mois de mars dernier, qui crée le fichier des infractions de l'Adopi et désigne les informations que les fournisseurs d'accès devront transmettre à la haute autorité.
FDN, French Data Network, crée la surprise. Le plus vieux fournisseur d'accès à Internet déclare auprès de l'ARCEPS, ou les forceps, dirigé par le très charismatique Benjamin Bayard, a décidé d'attaquer devant le Conseil d'État le décret portant création du fichier de l'Adopi. Ce décret, je cite, prévu par la loi Adopi a en effet été pris sans avis de l'ARCEP alors qu'il porte sur les activités des opérateurs et que l'article L36-5 du Code des postes et communications électroniques indique qu'en pareil cas, l'avis de l'ARCEP est obligatoire, justifie aujourd'hui Benjamin Bayard.
En tant que destinataire du décret, l'opérateur associatif demande dans sa saisine au Conseil d'État d'annuler le décret 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet ».
Il poursuit en disant « Ce décret est entaché d'un vice de forme puisque le gouvernement a omis de consulter consulter l'ARCEP, et ce, alors que la loi le lui impose conformément à l'article L36-5 du Code des postes et communications électroniques. Un article qui dispose que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décrets ou de règlements relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre. Il s'agit au sens de votre jurisprudence d'une formalité substantielle justifiant une annulation du dit décret. Non seulement la consultation est imposée par la loi, mais en outre, cette omission a pu exercer une influence sur la décision, indique la lettre adressée au Conseil d'État. Plus généralement, cette formalité avait à l'évidence pour objet d'accorder des garanties aux administrés. Point et fin de citation.
S'il est annulé, le décret devra non seulement être revu, cette fois après consultation de l'ARCEP, mais aussi revenir dans les mains de la CNIL, qui doit également être consultée, ce qui retardera de longs mois l'envoi des premiers mails, nous dit toujours Guillaume Champeau de Numérama. Et c'est vrai que si c'est attaqué devant donc le Conseil d'État et que le décret est annulé, eh ben, les sociétés qui font justement qui ont besoin de cette mixité de données entre les fournisseurs d'accès et donc les ayants droit, eh ben, c'est un peu bec dans l'eau.
Voilà, encore, une preuve à la fois de la complexité de ces thématiques, mais en même temps, finalement, de l'aspect compliqué des propositions qui sont faites. Et on sait que complexe, c'est bien, compliqué, c'est nul.
Oui, en plus, ils ne font pas ça correctement. C'est ça le problème, c'est qu'ils essayent de passer des décrets en 12, mais on les a tous vus, ou presque tous vus. Ça allait juste être dans la deadline que, évidemment, FDN a dit « Oula, il y a un problème avec la quadrature du net, en plus. Et il y a d'autres choses qui arrivent aussi, qui se voient. Sur le net, tout se voit. Donc, on ne peut pas passer à côté de décrets qu'on va aborder, disons, de brevets logiciels qu'on va aborder un petit peu plus tard dans l'émission.
Voilà, il semble bien que le législateur et puis en tout cas les politiques n'aient pas toujours compris que la société aujourd'hui effectivement s'informe elle-même et n'attend pas la censure ou on va dire l'interprétation ou le jargonnage parfois volontairement perturbateur et flou qui est employé quand on n'a pas le courage de dire qu'on ne comprend pas. Le streaming, les newsgroups et sites d'hébergement sont aussi visés, seraient aussi visés par la DOPI, poursuit Guillaume Champeau de Numérama. Comme ils l'ont souvent répété dans leur colonne, la DOPI ne s'attaquera qu'au réseau P2P. C'est effectivement le seul mode d'accession au contenu qui permet à un tiers qui n'est ni hébergeur ni le fournisseur d'accès à Internet de collecter l'adresse IP de ceux qui téléchargent. Or, sans adresse IP, pas de riposte graduée. Le décret sur la création du fichier Hadoopi exige d'ailleurs de conserver le nom du protocole pair à pair utilisé, ce qui exclut toute autre technologie.
Mais il y a bien l'intention d'aller au-delà du peer-to-peer en s'attaquant en particulier au streaming, au téléchargement sur les newsgroups ou sur les sites d'hébergement comme RapidShare. C'est un des messages qu'a souhaité passer lundi soir l'Hadoopi et en particulier l'ancien ministre de la Culture Jacques Toubon. Nos confrères d'Electron Libre croient d'ailleurs savoir qu'un sixième décret est dans les tuyaux qui permettra à l'Hadoopi d'étendre son action à d'autres pratiques que celles des échanges illicites entre particuliers sur les réseaux peer-to-peer, comme le streaming illégal ou le téléchargement sauvage d'œuvres protégées par le droit d'auteur sur certaines plateformes d'hébergement.
La rédaction de Numérama n'y croit pas beaucoup pour la simple raison que l'arsenal juridique est déjà suffisant pour s'attaquer à toutes les autres formes de téléchargement ou de streaming que le peer-to-peer. Il suffit d'employer les dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN qui avait en son temps aussi fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive pour obtenir des hébergeurs qu'ils suppriment les contenus illicites. Depuis la loi Hadoopi, l'article 336.2 du Code de la propriété intellectuelle permet aussi aux titulaires de droit de saisir le juge des référés pour qu'il ordonne toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Il s'agit d'une disposition qui vise clairement à obtenir le filtrage de sites auprès des fournisseurs d'accès à Internet, mais il n'y a pas besoin de décret pour l'activer. Que pourrait faire de plus l'Hadoopi ?
En réalité, seule une mesure plus systématique telle que la transmission par l'ADOPI au FAI d'une liste de sites à bloquer qui remettrait en cause l'équilibre de la LCEN et la neutralité du net justifierait peut-être un nouveau texte réglementaire. Il faut bien comprendre que la neutralité du net s'arrête là où le droit de propriété est bafoué, indiquait David Elsaeg, le président du SNEP, le syndicat des maisons de disques, pour expliquer que l'ADOPI s'attaquera à d'autres méthodes que le peer-to-peer.
De même, les confrères de PC Impact avaient pointé du doigt les positions anti-neutralité du net de Michel Riguidel, l'homme chargé d'accoucher d'ici septembre les fonctionnalités pertinentes, entre guillemets, que devront avoir les, entre guillemets, toujours moyens de sécurisation imposés aux abonnés à Internet. Monsieur Riguidel est un farouche défenseur du Deep Packet Inspection, le DPI, une technique qui permet de vérifier à la volée le contenu d'un paquet pour décider de son sort sur le réseau. Pour lui, la neutralité du net est une écume politico-médiatique. Faut-il en conclure que des fonctionnalités pertinentes ne seront pas imposées aux abonnés, mais aux FAI, pour qu'ils mettent en place un filtrage sur le réseau. À ce stade, c'est prématuré de l'avancer.
D'autant que le Conseil constitutionnel, encore lui, veille dans sa décision sur la loi ADOPI 1, il avait imposé au nom du respect de la liberté de communication l'intervention du juge avant tout filtrage et exigé qu'une telle mesure ne puisse être ordonnée qu'après une procédure contradictoire. Il avait aussi insisté sur le fait que le tribunal ne pourrait prononcer que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ce qui, dans les faits, interdit toute mesure qui fait courir le risque d'un surblocage. Or, ce sont techniquement les seuls à pouvoir être vraiment efficace. Le Conseil d'État, qui juge la constitutionnalité des décrets, ne pourra que suivre la même grille de lecture.
Voilà, toujours sous la plume de Guillaume Champeau. Voilà, donc on comprend bien que il faudra encore attendre que tout ceci se dénoue ou se renoue avant peut-être de poursuivre justement sur le brevet DPI et sécurisation. Peut-être une petite pause musicale.
Oui, une petite pause musicale, parce que quand on gratte, on va trouver plein de choses. Et puis, vous jetterez peut-être mon corps à la mer, comme nous dit Pierre Baron dans son dernier album, Le Réveil.
jetterai, vous jetterez mon corps à la mer. C'est Pierre Baron. Indétrônable premier de la classe, il survole l'éprouvé cursus scolaire suggéré par l'éducation nationale, séduit par les discours d'hommes et de femmes empreints de la plus profonde conviction. Il est très vite attiré par la politique. La suite des aventures de Pierre Baron, c'est sur baronp.blogspot.com si vous voulez. Mais voilà, ça pourrait presque être un radiomicide, ce titre, vous jetterez mon corps à la mer lors d'une marée noire, par exemple. On l'a compris, la dopie, tout ça, c'est un petit peu ubuesque, hein. Souvent on l'a dit, c'est un peu, voilà, comment se battre contre les moulins à vent, ou ce genre de choses. Et puis, ce qui est plus gênant et plus, finalement, un peu malséant, c'est la proximité souvent dénoncée des uns et des autres dans ces processus. On l'avait vu lors du DADVSI, on le revoit encore. J'ai bien peur que nous frisions la République bananière par les temps qui courent.
On reste en famille. Alors, le brevet des pays, sécurisation, un résumé, une précision fourre-tout dans l'actualité sur le brevet, sur la sécurisation des flux. Donc, PC Impact a tenté de retracer l'histoire d'Adopi autour des moyens de sécurisation. Si l'on compile cette longue chaîne de faits imbriqués, retenons.
Une invention sur la sécurisation des flux et l'inspection a fait l'objet d'un dépôt de brevet en juin 2009. Elle est signée Michel Riguidel, ancien prof de Télécom Paritech, et Laurent Ladoiry notamment. Technique et théorique, ce brevet cumule tatouage des flux et contenus, inspection et évoque l'intervention éventuelle d'une autorité judiciaire. Il apporte ainsi sa contribution à la lutte contre le téléchargement illicite.
Laurent Ladoiry fut conseiller NTIC de Christine Albanel lors de la construction du texte Adopi. Dès les accords Oliven, Michel Riguidel, quant à lui, s'est vu confier, voilà peu, une mission sur les moyens de sécurisation et le filtrage par l'Adopi en fin avril 2010.
Genre, j'ai fabriqué un truc, vote une loi pour que je vende mon produit. C'est merveilleux. Ce dépôt de brevet a pour demandeur le groupe des écoles des télécommunications. Ce groupe était présidé par Pascal Faure. L'intéressé fut l'un des membres de la commission Oliven, pépinière des lois Adopi 1 et 2. Il représente depuis le 14 septembre 2009 l'État chez Orange. Christine Albanel a rejoint cette entreprise en février 2010 comme directrice exécutive en charge de la communication du mécénat. C'est clair qu'ils ne vont pas nous filer de pognon. Et de la stratégie dans les contenus.
Le groupe des écoles des télécommunications est en fait un nom désuet. Il a été rebaptisé depuis longtemps Institut Télécom. Depuis le 24 septembre 2009, l'Institut est présidé par Jean-Bernard Lévy, actuel président du directoire de Vivendi, le propriétaire du numéro 1 de l'édition et de la distribution musicale Universal Music Group. Et ça ne s'invente pas tout ça.
Et c'est signé Marc Reis de PCImpact.com. Ouais, c'est vraiment...
on reste, voilà, en famille.
Voilà, ça donne à réfléchir, mes bons amis qui nous écoutaient, sans aucun doute. À présent, on va parler d'un format de fichier qui, depuis longtemps, fait parler de lui. C'est Flash. Flash qui, dès les années 90, avait permis de faire de l'animation, de la programmation, presque d'application, etc. Et qui... est resté un petit peu indétrôné dans son secteur, mais qui s'est souvent vu critiquer pour l'encapsulation elle-même, le fait pour les moteurs de recherche de ne pas pouvoir scanner l'intérieur des contenus, ce qui posait aussi un problème pour les gens qui faisaient des sites avec ça, et puis l'aspect très fermé du format de fichier, très propriétaire, etc. Et c'est la Free Software Foundation qui ne veut ni du Flash, ni d'Adobe, l'éditeur, ni du web ouvert façon Apple, qui sont tous des formats et des produits, puisque Apple, c'est tout un monde à part entière, tout un univers de programmes. Ça, c'était le logo de Microsoft, mais enfin, le slogan, je veux dire. De plus en plus de gens ont effectivement des smartphones à écran OLED qui permettent de glisser ses petits doigts dessus et de faire du multitouch ou ce genre de cochonnerie. Faites ce que vous voulez avec votre iPhone. Tout ça, ça laisse augurer quelque part un monde où chacun aurait un seul et unique dork. un seul et unique truc qui ferait à la fois téléphone, ordinateur portable ou en tout cas extension de celui qu'on a à la maison et qui est du même constructeur, enfin on va dire le marché unique. Donc la Fondation pour le logiciel libre ne veut pas arbitrer entre Adobe et Apple dans le combat qui oppose les deux sociétés et leur conception du web. Selon la FSF, les deux entreprises ne cherchent qu'à imposer un web qu'ils contrôlent, à l'antithèse du web libre officiellement défendu par Apple.
En livrant sa diatribe publique contre Adobe et son format Flash, Steve Jobs en a profité pour défendre l'idéal selon laquelle Apple serait le champion du web ouvert. Je cite, Adobe prétend que nous sommes un système fermé et que le Flash est ouvert, mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Ainsi écrit le patron d'Apple dans son billet, Steve Jobs assurait que la firme de Cupertino militait pour un web ouvert, entre guillemets, basé sur les standards HTML5, CSS et JavaScript, et que c'était pour lui la voie de l'avenir. Il a même été rejoint quelques jours plus tard par Microsoft, qui a également déclaré sa flamme au HTML5 et au format vidéo H264.
Mais la Free Software Foundation ne l'entend pas de cette oreille. Dans une tribune publiée par Ars Technica, le directeur des opérations de la Fondation pour le logiciel libre, John Sullivan, remet les belligérants à leur place. Regardez deux sociétés de logiciels propriétaires opposés profondément à la liberté des utilisateurs d'ordinateurs se renvoyer dos à dos des accusations pour savoir qui est le plus opposé à la liberté et pour le moins surréaliste, commence Sullivan. Pour lui, je cite, « ce qu'ils appellent la liberté n'est pas la liberté du tout, c'est leur liberté à eux de contrôler leurs utilisateurs. »
John Sullivan se félicite de l'adoption du HTML5 par Apple, mais il rappelle que pour avoir un web irrévocablement libre, les standards de publication sur le web et le logiciel qui permet d'y accéder doivent être libres. Sans navigateur et système d'exploitation libre et ouvert, il n'y aurait pas de web ouvert.
Il critique donc longuement la politique ultra-propriétaire d'Apple avec son App Store et son iPhone OS et accuse la firme de promouvoir le format H264 pour le web alors qu'il est couvert par des droits de propriété intellectuelle qui interdisent sa libre exploitation.
La Fondation rappelle que pour lire le format H264, les éditeurs de navigateurs doivent en effet accepter de préciser dans leurs conditions d'utilisation que ce logiciel est licencié sous le portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur. La licence peut être révoquée et l'utilisation du H264 à des fins commerciales est interdite sans rémunération des droits. C'est la raison du refus de Mozilla d'intégrer donc ce format H264 dans Firefox. Et c'est aussi pourquoi nous disions en début d'année que la gratuité du format H264 reconduite jusqu'en 2016, était en réalité un piège destiné à se refermer sur le logiciel libre.
Voilà, nous, c'est Numérama. La FSF milite pour l'adoption du format Ogg-Theora, format libre et ouvert, et souhaite que Google publie le codec VP8 sous licence libre pour porter un coup peut-être fatal au H264.
Steve Jobs concluait sa lettre en disant que Adobe devrait dépenser plus d'énergie à créer d'excellents outils HTML5 pour l'avenir et moins à critiquer Apple parce qu'il laisse le passé derrière lui. En écho, John Sullivan répond que le passé que nous devons laisser derrière nous n'est pas juste le Flash, c'est aussi les logiciels propriétaires d'Apple. Il y a plein de places pour qu'ils nous rejoignent dans le monde libre, mais ils doivent arrêter de prétendre que leurs petites cages sont le monde libre.
Voilà, toujours sous la plume de Guillaume Champeau. On peut écouter un petit peu de musique ou passer à la news suivante.
On va écouter l'indique toujours de Pierre Baron, boycottons la SACEM, comme il le dit sur le CD, extrait de son dernier album, Le Réveil.
Dans une langue inconnue. Dis-lui qu'il aura tous les choix, limité à rien dans les lois. Et s'il n'en est pas plus heureux qu'il veut le crier dans la rue, c'est la même. Dis-lui qu'il est une référence, une ombre, un chiffre qui mange et sue.
Un simple numéro qui riait et pleure.
Qu'on ne dit plus qui, mais quoi que la masse se mesure au poids.
Vous êtes des actions et nous les traders.
Malgré son acte de naissance, malgré son histoire, son vécu.
Vos identités sur le marché n'ont pas de
c'est
valeur.
La même.
Les décisions se prennent selon l'humeur. Et les surplus s'éliminent sur des coups de cul.
C'est la même. Du résistant au bon soldat, nous détenons ce qui fut et deviendra. Il faut qu'ils comprennent que les dés sont pipés, votre seul choix sera de céder. Tout s'enclenche comme le prévoit le plan. On a vos noms, vos têtes, vos droits, vos libertés, votre sang emprisonné dans nos fichiers. Si l'un d'entre vous veut empêcher le sacre, ça finira par un
massacre. L'indique extrait de Le Réveil de Pierre Baron, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avait été très vite attiré par la politique, charmé par les paroles de femmes et d'hommes empreints de la plus profonde conviction. Mais parallèlement, son envie de devenir un artiste connu et reconnu s'accroît en lui. C'est finalement la musique qui l'emporte et c'est dans cet univers épargné par l'hypocrisie et la cupidité, mon œil, qu'il se lance avec enthousiasme. Enchaînant les petits boulots qui lui permettront de mener à terme ses projets musicaux, il pense à cet avenir où la sacro-sainte SACEM récoltera ses royalties méritées.
Et puis on rappelle qu'on est toujours sur Divergence Numérique 93.9, divergence-fm.org, pour ceux qui nous écoutent par le net, comme Robert F., un fidèle auditeur de Belgique.
Oui, comme soi, ils ont bon goût en Belgique, ils écoutent les radios comme Divergence FM.
Oh, ils en ont aussi des radios qui parlent de libre là-bas, à Bruxelles.
Je n'en doute pas une seule seconde, mais pas avec un accent aussi charmant
que celui-là.
Sial, ça veut dire service d'information et d'analyse des logiciels libres éducatifs.
Et oui,
une plateforme web qui vise à offrir aux enseignants des informations sur l'offre en matière de logiciels libres éducatifs.
C'est un service proposé par le ministère de l'Éducation nationale via le SCEREN. CNDP. Lorsqu'un auteur de logiciel libre éducatif souhaitait y soumettre son logiciel, il devait obligatoirement accepter la charte licence SIAL, SIA2LE. Cette dernière apparaissait comme étant une véritable substitution de la licence de logiciel libre initialement choisie. Nous avions ici même parlé de relicenciement forcé.
Fin mars, l'April, association qui promeut le logiciel libre, a rencontré un membre du cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Parmi les points évoqués figurait ce problème. Suite à cette rencontre, la charte SIAL a été modifiée. SIAL respecte désormais, sans ambiguïté, les droits des auteurs de logiciels libres. C'était une erreur.
Comme le déclarait Bruno Coudouin, auteur du logiciel libre éducatif J'ai compris et qui fut le premier auteur à signaler le problème à la plateforme SIAL, avec cette nouvelle présentation, la plateforme SIAL est une chance pour les auteurs de logiciels libres de faire connaître leur travail auprès de la communauté enseignante.
Un site que tous les professeurs devraient avoir dans leur marque-page, www.sial.education.fr, sial2le.education.fr.
Une news que l'on retrouve aussi sur le site linuxfr.org. Merci à eux.
Kalenko est une solution pour la documentation des projets libres. C'est une question.
Ça peut être une question, bien sûr, puisqu'on sait que les développeurs n'aiment pas écrire de la doc, c'est bien connu. Les logiciels libres sont souvent issus de projets de développeurs. Et une des conséquences est que peu de logiciels libres proposent une documentation vraiment professionnelle.
Ce qui, effectivement, est un vrai souci. Ceci a d'ailleurs été à plusieurs reprises cité comme un frein à son adoption en entreprise. Par exemple, dans « Fundamental Issues with Open Source Software Development », par Michel Levesque. Donc ça veut dire thèmes fondamentaux avec le développement des logiciels open source. Sans documentation adéquate, les projets open source sont de façon inhérente désavantagés. Soit en français, dans les soucis fondamentaux avec le développement open source de Michel Levesque. C'est le bordel cette citation. Sans documentation appropriée, les projets open source sont par nature désavantagés.
Très bonne traduction. Oui, puis vous retrouvez aussi les articles de l'émission sur le site divergence-fm.org, rubrique divergence numérique. Et vous aurez l'anglais et le français dans l'article, comme on pouvait vous le préciser à l'instant.
Donc, voilà, j'avais mal lu.
Développé par l'ancienne équipe documentation de Mandriva, Kalinko est un outil web sous licence AGPL qui peut aider à résoudre ce problème. La version 2.0.1, sorti tout récemment, permet d'écrire de la documentation très rapidement avec un rendu pro dans de nombreux formats.
Donc, amis documentalistes qui vous mettez au service des développeurs, amis développeurs qui avez envie de documenter un peu mieux, un peu plus vos travaux, eh bien, www.kalinko.com, C-A-L-E-N-C-O.
Tout simplement.
Tout simplement. Avons-nous le temps encore ?
On peut.
Nous pouvons avoir le temps.
Ah oui, on a le
nous
temps.
Pouvons avoir le temps de découvrir un peu plus avant Pierre Baron, qui, soucieux de la difficulté rencontrée par les artistes indépendants, avait décidé de monter une association de loi 1901 pour en devenir un employé et ainsi joindre l'utile au vital. Les URSSAF et les ACEDIC, honorables organismes privés, par quelques procédures légitimes, lui permettent généreusement de découvrir sa naïveté face à un système sévère mais juste, en lui faisant parvenir des avertissements par plusieurs messagers assermentés débordant d'intégrité. Waouh ! Pierre a décidément une vie fantastique que nous découvrirons après un nouveau titre.
La cuite. Plage numéro 6, extrait de son dernier album, Le Réveil,
lereveil.fm. Le réveil après la cuite, c'est toujours dur.
Sur leur désir de liberté, un mouvement sans précédent naquit. Puis apparurent les premiers groupements hippies. Comme un souffle enchanteur, cet esprit prit de l'ampleur. Des millions de frères et sœurs partagèrent l'envie de paix et d'harmonie dans les cœurs. La quéquette à l'air, les idées derrière. La cuite est amère. Quand la DQV dévoile qu'elle va m'aider, la CIA. La révolution sexuelle, c'est la CIA. La libération féminine, c'est la CIA. La révolte de mai 68, c'est la CIA. Et si je me fous voir, elle y est au moins pour un chouïa. Foufou dans l'air, les idées derrière. La défense est amère. Quand la redescente des voiles, quel dealer est la CIA.
Et voilà, c'était Pierre Baron qui avec une chanson qui va bien, hein, un lendemain de cuite au réveil. Je pense que vous pourrez la télécharger sur son blog baronp.blogspot.com.
Et oui, l'album est entièrement téléchargeable.
Entièrement téléchargeable, mais il n'est pas sous licence libre.
Non, il dit juste que si vous l'utilisez, il faut juste citer l'auteur et voilà. Tout simplement.
Ce que nous faisons abondamment, mais Pierre Merci. Baron, toi qui nous écoutes, peut-être, et nous en serions honorés. Ah, je n'ai pas vu, on me tend un message crypté, mais je n'ai pas mes lunettes décryptantes. Si tu nous écoutes, Pierre Baron, eh bien, sache que dans le droit français, si tu ne déposes pas explicitement ta musique sous une licence de libre diffusion, le droit s'applique.
Eh oui, eh oui. Alors, on revient tranquillement sur Divergence numérique.
Oui, oui.
Cette 13e émission, maintenant que nous sommes hebdomadaires depuis cette saison, quand même.
Avec, j'ai envie de dire, LinuxFR qui lève non pas le lièvre, mais le lynx.
Le lynx, et notamment, on peut noter ce mois-ci, ou en tout cas en fin de mois d'avril, la fameuse sortie de la version 10.04. Il était temps, parce que à J-1, ça aurait été 10.05, les petits loulous, qui s'appelle le Lucid Lynx.
Voilà, comme beaucoup d'entre vous le savent, cette distribution est sortie et suscite beaucoup de satisfaction, mais également bien des désagréments, un des plus connus étant l'alourdissement de l'ensemble de la distribution.
Bon, alors moi je suis très LTS, hein, donc Long Time Support, je préfère installer...
Alors on précise que Ubuntu, c'est tous les 3 ans, 4 ans, il y a une version qui sort, ou 2 ans, il y a une version qui sort qui est dite Long Time Support, ce qui veut dire que
même
elle est réputée plus stable, etc., même au-delà. Hein, donc
elle,
voilà,
elle est surtout supportée au-delà de ces 2 ans d'existence, en fait.
Et donc, as-tu testé la 10.04 ?
Je l'ai sur mon portable, je l'ai sur...
Alors,
c'est vrai que graphiquement, elle est sympa, c'est vrai qu'elle mange un petit peu plus de ressources.
Mais combien plus ? 2 kilos ?
Non, j'ai pas pesé l'ordinateur lui-même, mais
combien de
mais en fait, l'installation est quand même très aisée quand même. Hein. Pour vraiment les novices, c'est vous lancez le CD.
Pour les aisés, c'est cool.
Les aisés, c'est cool. Vous démarrez sur le CD. Vous pouvez la tester. Mm-hmm. Vous avez la possibilité soit de la tester puisque c'est un live CD, soit de l'installer si vous voulez dire allez carrément j'y passe. En tout cas, c'est 3 clics de souris, vous attendez un peu, vous allez faire un tour, il y a des petits écrans super sympas et rebelote, redémarrage, le CD s'éjecte et vous avez votre version 10.04 installée toute propre et tout bien joli avec un look terrible.
Alors toi, tu l'as installé sur une machine qui ressemble à un ordinateur portable. Un ordinateur portable plutôt bien charpenté à ce que j'en vois à la connectique qu'il y a derrière. Genre Core 2 Duo ou...
Même pas. J'ai
un Celeron.
Un Celeron mobile.
D'accord.
Celeron mobile avec... J'ai un giga de RAM dessus. C'est vrai que graphiquement, elle mange plus de ressources. Graphiquement parlant.
10% de plus ?
J'ai pas,
on n'a pas benché tout ça.
J'ai
on
pas benché,
les
c'est tout chaud. Hein, c'est tout chaud aussi.
C'est tout chaud. Ouais.
C'était le week-end dernier, donc tu vois. Et c'est vrai que certains disent ah, forcément, c'est un petit peu plus lourd. Il y a des utilitaires qui se lancent dans tous les coins. On rejoint les réseaux sociaux en 3 coups de cuir à peau. Et c'est vrai que.
Disons mais... quelqu'un équipé d'une génération basée, d'une machine basée sur du Pentium 4, par exemple, où
justement.
Il s'en sortira mieux avec une 8.04 qu'avec une 10.04.
Ça dépend du matériel, parce que justement, à la maison, j'ai du Pentium 4 aussi, sur du 2,6 GHz en processeur, avec 2 Go de mémoire. Et on sent aussi quand même ce côté graphique qui prend quand même
qui fait brouter la machine.
Alors, il faut savoir que c'est une config par défaut. Il est possible de personnaliser complètement son interface graphique et de choisir des thèmes. C'est surtout les thèmes graphiques.
Plus légers.
Beaucoup plus légers et beaucoup plus adaptés. Et donc, après, on se retrouve quand même avec un confort avec déjà les dernières versions de tous les logiciels comme Thunderbird, Thunderbird qui est le logiciel de courrier qui permet de lire les newsgroups, les fameux newsgroups, les flux RSS de nouvelles avec une organisation différente. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, ça s'organise de différentes manières. Vous voyez ce qu'il fait, il y a un panneau d'activité, il indexe. Bon, en tout cas, ça se migre d'une version à l'autre très facilement. Mmh. Moi, j'ai gardé tout mon environnement de travail par ce biais-là. Aussi, on récupère la dernière version de Firefox, la dernière version d'OpenOffice, etc. etc. Et l'installation des imprimantes, il suffit juste de préciser où se trouve l'imprimante et il détecte le modèle, il installe le pilote. Ça se fait vraiment très facilement. Quoi.
Ça se faisait aussi sous 8.04.
Oui, mais alors là, encore plus facilement. Quoi. C'est vraiment... Vraiment, pour des novices, quelque chose qui est très, très facile. Je le répète encore une fois, très facile. En tout cas, adapter. Il faut adapter par rapport à sa machine. C'est vrai, des machines plus anciennes, que l'interface graphique peut être gourmande. Donc, attention, passez, testez, voyez ce que ça donne. Donner des retours.
On est habitué aussi au syndrome de la course à l'armement où
exactement.
Les applicatifs ils sortent, finalement ils en font pas plus qu'avant, sauf qu'ils le font avec de la 3D, des machins, des boutons
en
45 milliards de couleurs. Bon, si c'est pour cliquer sur print ou faire contrôle P, effectivement, bon, voilà, il y a des fois un petit peu de ça. En tout cas, Linux FR ils poursuivent parce que ils poursuivent justement. Par rapport au nombre de logiciels et services qui sont servis dans la distribution 10.04 par défaut, toujours plus nombreux et imposés lors de chaque installation, ils alourdissent la distribution et forcent beaucoup d'utilisateurs de tout horizon désireux de choisir eux-mêmes leur logiciel à se tourner vers une installation minimale via un CD minimal, n'installant rien de plus à la base qu'une console et quelques paquets.
Et oui, désormais, grâce à une variante Slim, donc légère ou dégraissée ou comme
mince.
Vous voulez, mince, les aficionados de la distribution Ubuntu n'auront juste à se contenter de se tourner vers une net install, c'est-à-dire une installation par le réseau ou toute autre solution de ce genre nécessitant une intervention dans une fenêtre de commande, un shell, ou de se forcer à migrer vers Debian, alors une autre distribution, alors qu'ils n'y sont pas forcément prêts ou n'en ont pas envie et ne veulent pas prendre les avantages d'Ubuntu philosophie outil graphique.
Perdre
les avantages d'Ubuntu, donc la philosophie, les outils graphiques, les dépôts, etc., etc.
Cette variante Slim est une version desktop, un live CD classique d'Ubuntu, dénué de tous les logiciels et services superflus préinstallés de base. Pour que tous ceux qui aimeraient pouvoir choisir de leur propre chef les logiciels qu'ils souhaitent installer, y trouvent enfin leur compte. Actuellement, la version 32 bits est disponible et fonctionnelle. La 64 bits devrait arriver sous peu, suivie par la version Netbook Remix. Ensuite apparaîtront respectivement les versions Kubuntu avec l'environnement graphique KDE Slim et l'Ubuntu LXDE Slim lorsque celle s'y sortira en version stable. Ça ne s'arrête pas là. Le projet visera à reproduire la même chose sur d'autres distributions. Enfin bref, on est habitué. Dès qu'il y a une nouvelle distribution qui sort, elle fait plein de petits. Il va y avoir les Ubuntu 10.04. Je sais que la Ubuntu Studio 10.04 est téléchargeable. Elle fait 1,2 giga, mais c'est vrai qu'elle est pensée pour d'autres. D'ailleurs, moi, j'hésite. J'ai toujours pas installé la 10.04. J'ai un nouvel ordinateur. J'ai pas eu le temps de m'occuper. C'est vraiment l'enfer.
C'était que la semaine dernière, rappelons, eux aussi, hein, quand même.
Oui, mais ça fait des semaines que j'attends.
Et que les miroirs de téléchargement étaient un peu saturés.
Et sales aussi, avec tous les gens qui...
Et puis on voit que dès qu'il y a une version qui sort, les gens se l'accaparent, la modifient, la transforment et en refont donc d'autres distributions. Et bien, c'est ça le libre. Il faut s'accaparer les outils, se les prendre pour soi. Et si vous les modifiez, les redonner dans le circuit pour que d'autres puissent en profiter.
Peut-être un petit peu de musique avant la dernière news de cette divergence numérique.
Oui, un petit peu de musique.
Alors, donc toujours avec notre ami Pierre Baron, dont on peut retrouver bien toutes les infos, la biographie, les paroles, les vidéos, l'agenda, l'album, la bio, les mensurations, les notes, la cuisine préférée, l'ovinarium, le roo et les autres. Enfin, plein de trucs. C'est baronp.blogspot.com et puis c'est à Montpellier, hein, donc ça vaut le coup. Et puis on va écouter quel titre?
Le grand amour, plage numéro 7, toujours extrait du réveil, disons le réveil. Thank you.
m'habille de lumière. Elle m'attire, me séduit, puis m'accapare. Elle a tout pour me plaire, me ravir, tous les arguments pour la croire. Je résiste, mais la tentation est si forte, je finis par lui céder une partie de moi-même. Elle persiste, mon attente est si longue, je n'ai toujours pas de preuve qu'elle m'aime. Alors j'ai pris mon temps, ma drogue et mes idées claires. Puis je m'en suis allé loin de son aura populaire. Parce qu'elle veut. Elle veut. Elle veut. Tant d'attention à son image que les miens lui vouent un engouement naïf. Son charme touche tous les hommes de tous les âges, c'est le grand amour collectif. Prise au piège, elle ne leur laisse pas le choix, elle assiège chaque esprit sous chaque toit. Mais qu'en sais-je, m'explique le citoyen lambda, le sacrilège c'est de ne pas accepter ce format. Alors j'ai pris mon temps, ma drogue et mes idées claires. Puis je m'en suis allé loin de son aura populaire. Parce qu'elle veut. Elle veut. Elle veut.
Pierre Baron, on poursuit cette biographie auto-écrite, cette autobiographie. Pierre se souvient de ce moment de sa vie durant lequel il aurait pu tomber dans la dépression. Mais heureusement, un prêt appelé RMI lui fut accordé. Conscient de la chance qu'il a et de son devoir de citoyen, il ne rate aucune élection et se rend aux urnes pour se rappeler qu'il est redevable à son état du confort dont il jouit. C'est cela qu'il raconte dans ses chansons. Il chante pour les autres, les opprimés, relatant ce qu'il apprend dans les journaux télévisés du 20h. Il partage son expérience pour prôner la tolérance, la paix, compter la relation homme-femme, les petits tracas de la vie. Puis, Le Réveil, titre de cet album. Le réveil est douloureux durant les premiers temps. Puis Pierre est soulagé de se rendre compte qu'il ne s'est jamais inscrit à la SACEM. Il a arrêté de voter, il n'a pas d'argent et il s'en fouette les aisselles avec un pambagna. Il comprend que s'il y a des opprimés, c'est qu'ils le veulent bien. Il s'aperçoit que tout ce qu'il a appris depuis sa plus laineuse enfance se repose sur des mots usés par la démagogie et le mensonge dictés par des bergers issus des mêmes familles. Rien n'est vrai, rien n'est faux, la clé c'est l'équilibre. À défaut d'être libre, il est affranchi, il fait ce qu'il veut, car ce qu'il veut est faisable, celle-là je l'adore. Il prend la liberté que se refuse le brave citoyen par souci de l'image, comme écrire lui-même la pitoyable biographie que vous terminez de lire. Quand même, il est pas mauvais. Et puis, les morceaux sont plutôt bien produits, dirais-je.
Oui, merci à Pierre Baron qui nous accompagne dans cette divergence numérique, toujours sur le 93.9 et puis divergence-fm.org aussi.
Voilà, et comme on parlait d'équilibre à l'instant, je propose que nous terminions par 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 la pénultième et que nous parlions tout de suite de Équilibre, EKYLIBRE, un outil de gestion des TPE et des associations.
Alors, la gestion des entreprises est l'une des premières activités gérées par l'informatique. Les grosses entreprises utilisent depuis une vingtaine d'années des progiciels tels que SAP. Les PME ont eu la possibilité de s'équiper avec un progiciel de gestion intégrée libre. Mais les très petites entreprises, TPE, étaient toujours dans l'attente d'un logiciel à leur portée. Équilibre, EKY, Libre, est sans doute le logiciel qu'elles attendaient.
Une particularité de ce logiciel est de produire une comptabilité sans enfer, En effet, chaque opération de gestion, telle qu'émettre une facture, génère automatiquement une opération comptable. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'être plus comptable qu'informaticien pour utiliser Équilibre.
Ça, c'est une bonne chose, ça. Le logiciel sous licence GPL V3, initialement créé par les agriculteurs, et notamment par la Bulle, l'association bordelaise des utilisateurs libres, il vient de là, Équilibre, également donc adapté à la gestion des associations. Ainsi, donc, la Bulle vient de l'adopter, évidemment, pour sa gestion. Il sera utilisé pour celle des RMLL 2010. Sa genèse, détaillée dans la suite de l'article de Linux FR, est particulièrement intéressante et montre comment de nouvelles activités peuvent être créées et générer des emplois.
Une première présentation d'Équilibre sera faite à la foire de Bordeaux le vendredi 14 mai à 10h dans le hall numéro 3.
Alors Équilibre, c'est www.equilibre.org. Il y a une démo en ligne, c'est très sympathique. Je vous invite, on vous invite tous à y aller, tester, vous créez votre société, votre association, découvrez-le, téléchargez-le, installez-le, utilisez-le.
Et même qu'on va peut-être le faire nous, puisque on l'apprend en même temps que vous, c'est quand même merveilleux la radio. Rhizome devient entièrement libre. Il ne s'agit pas de racines,
non,
ou d'arbres généalogiques, ou de
non
patates
plus
douces, mais bien d'un jeu vidéo. Oh.
Et oui, la nouvelle vient d'apparaître sur les forums de jeux Rhizome, R-Y-Z-O-M, et le premier jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, un MMORPG commercial, à devenir entièrement libre. Winchgate Properties Limited, développeur et éditeur du jeu, a décidé en partenariat avec la Free Software Foundation, que l'on ne présente plus, de mettre l'intégralité du code de source du jeu, client, serveur ou outil annexe, sous licence AGPL3, plus encore toutes les données artistiques sont sous maintenant licence Creative Commons by SA, tout simplement.
Se félicitant de cette nouvelle, le directeur exécutif de la Free Software Foundation, Peter Brown, a précisé « C'est une occasion unique pour le mouvement du logiciel libre et l'émergence dans le domaine du jeu libre d'accélérer la production de jeux libres et de mondes 3D. Nous reconnaissons l'importance du jeu et le courant prédominant des jeux propriétaires. Donc ce jour représente une avancée significative à partir de laquelle notre communauté peut en profiter. »
Cette nouvelle est la concrétisation des espoirs de toute une communauté. Depuis que des employés de Neuvrax, des joueurs ainsi que des personnalités du logiciel libre ont en 2006 lancé un appel aux dons pour racheter le jeu et le diffuser sous licence libre. L'appel d'offres avait alors été refusé et la société Gameforge avait été désignée par le liquidateur judiciaire pour reprendre le jeu. L'accès au serveur continuera à être payant afin de continuer à financer le développement, bien que plus rien n'empêche en théorie de monter un serveur alternatif. Pour information, le prix mensuel de l'abonnement varie entre 77,95€ l'année, soit 6,50€ par mois, à 7,95€ pour un mois. Un seul abonnement.
Waouh, dingue. Rhizome n'est à l'heure actuelle disponible que sous Windows. Ça, c'est con. Mais fonctionne très bien sous Linux et macOS avec Wine.
Ah, Wine.
Un tutoriel est disponible sur le forum officiel. Le passage au libre, quant à lui, laisse évidemment espérer un portage natif Linux, une news sur l'incontournable linuxfr.org. L'incontournable. Indispensable.
Ah oui, linuxfr.org. On passe.
Je pense qu'on va
Est-ce qu'on a le temps d'écouter un dernier morceau de musique? Je pense que c'est un peu abusé.
Ouais, hein. ça...
Ou alors, pour se quitter, évoquons tout de suite le point libre du mois de mai. Les ateliers libres sont des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres et organisés et animés par Montpellier Libre et ses partenaires.
Dans la thématique des points communs de Kawenga, Montpellier Libre vous propose d'assister au point libre, le grand rendez-vous de tous les passionnés de logiciels libres. Cet atelier vous invite à découvrir la nouvelle version de SPIP. Donc SPIP
2.1.
C'est qui SPIP?
C'est qui SPIP? Je ne sais pas, il vient de passer.
C'est en tout cas ce qui nous permet, divergence-fm.org, et sous ce compositeur de site, ce CMS, donc présentation des nouvelles fonctionnalités, utilisation de cette version 2.1, commencer à faire connaissance avec ce système de gestion de contenu, voilà, le CMS qui est SPIP, et créer son site internet, apprendre les bases, permettre ainsi de faire connaissance avec les utilisateurs locaux de SPIP que l'on ne connaît pas forcément.
Et ça se passe ce vendredi 7 mai 2010 de 14h à 19h à Kawenga, 21 Boulevard Louis Blanc, 34 000, Montpellier, Tramway Corum.
Je vous passe les détails de la longitude et de la
latitude. Latitude 43.61.65.52, longitude 3.87.96.387.
Voilà, une actu qu'on retrouve aussi sur montpel-libre.fr. Et puis, on regardera évidemment agendadulibre.org pour le reste de ces nouvelles.
Voilà, non moins indispensable, agendadulibre.org, baronp.blogspot.com, c'est le site de Pierre Baron avec lequel on va se quitter pour un dernier titre en remerciant Bruno Bertrand de nous avoir réalisé cette émission.
Merci Bruno.
En faisant un petit coucou à Anaëlle Navarro qui peut-être
est pris par des obligations professionnelles
et nous écoute.
Il m'avait dit
peut-être
qu'il était peut-être en déplacement. Donc,
Eh bien, espérons que ce ne soit pas un déplacement de vertèbres. Quel titre écoutons-nous à présent?
On va terminer ça par la plage numéro 9. Alors,
Parano.
Parano, évidemment.
Voilà. Il ne faut pas être parano, mais c'est vrai que tout part en couille.
Eh oui.
Dis-le, t'as peur de ce que tu ne connais pas. Dis-le, t'as peur de tout autour de toi. Dis-le, t'as peur de ce que tu ne connais pas. Dis-le, t'as peur de tout autour de toi.
Escalier, il faut un code pour y entrer. Faut un code pour l'accès à la porte principale du garage. Tu veux passer cette dernière, un code est nécessaire. Un code pour sortir en voiture ou à pied. Un code de plus pour le local si t'as besoin de ton VTT. J'ai parcouru votre CV avec attention, il m'a plu. Je voudrais plus d'informations sur votre cul. Et en outre vos ambitions, nous connaissons votre âge. Mais quelle est votre date de naissance? Quelle est votre couleur préférée? Quelles sont vos attirances intellectuelles? Il nous faudrait une photo, voici notre email. Notez bien sûr que tout ceci est informel.